Ça doit être un bon gars, il vient du Saguenay.
Tous des bons gars, hein?
Le nouveau PDG du CHU de Québec, Martin Beaumont, est avec nous en studio. Bonjour, M. Beaumont.
Bonjour, Mme Segal. Bonjour, M. Blanchette.
Bonjour.
Vous présentiez à la presse ce matin, vous arrivez en fonction. Quelles sont vos priorités? Quand vous arrivez dans une institution comme le CHU de Québec, qu'est-ce que vous voulez réaliser?
Il y a plusieurs choses qu'on veut réaliser, mais la première chose, c'est de prendre le temps de bien comprendre. Je vous dirais que quand je suis rentré en poste, j'ai déposé au conseil d'administration du CHU de Québec un plan d'intégration de 100 jours. Et même à la blague, les gens me taquinent, là, combien de jours vous en êtes rendu. Mais ça permet quand même de prendre le temps de bien écouter, de bien entendre, puis de définir nos priorités. Je vous dirais qu'actuellement, pour l'année 2019-2020, il va y avoir 5 priorités ou zones d'obsession pour le CHU de Québec Université Laval et ses dirigeants. La première priorité, ça va être tout ce qui touche la vie professionnelle et la vie personnelle de nos travailleurs. Donc, tout l'équilibre travail-vie personnelle, le capital humain.
Première le temps supplémentaire obligatoire, entre autres?
Oui, absolument. Le temps supplémentaire en fait partie et le temps supplémentaire obligatoire en fait partie également. Puis, je vous expliquerai tantôt un peu les stratégies qu'on va mettre en œuvre pour ça. Mm-hmm. La priorité numéro 2, l'accès. Donc, l'accès à nos services spécialisés, ultra spécialisés. Donc, la gestion de nos listes d'attente, tu sais, de maximiser l'accès à nos services dans l'ensemble du continuum de soins, également avec nos partenaires là de l'UICPQ et du CIUSSS, la capitale nationale. Troisième priorité, toute notre performance à nous, parce qu'il faut pas oublier que vous nous confiez quand même beaucoup d'argent comme contribuables, hein, puis il faut souvent se rappeler pour qui on travaille, c'est 1,2 milliard, on fonctionne à 3 millions par jour, mais il faut qu'on s'assure de bien gérer cet argent-là avec des processus puis une efficacité opérationnelle qui est dans les meilleurs au monde. L'autre priorité, ça va être la pertinence. Donc, ça veut dire chaque traitement ou chaque service qu'on donne, on doit s'assurer qu'il est donné au bon moment, par le bon professionnel, avec la bonne technique ou le bon médicament, par exemple. Donc, pertinence. Mmh. Et notre dernière priorité, vous le voyez là, quand vous allez... vous voyez la construction hein, qu'on est en train de réaliser là au niveau du nouveau centre hospitalier NCH. Mais on a un livrable important, nous, pour décembre 2020. C'est notre centre intégré de cancérologie, notre CIC, dans notre jargon.
Le déménagement de l'Hôtel-Dieu de Québec.
C'est le déménagement du CIC. Donc, c'est vraiment de réaliser la construction on time, on budget, et de faire la transition et que nos patients s'aperçoivent pas qu'on est en transformation, mais qu'on est en train de construire quelque chose d'intéressant pour eux.
Quelques problèmes bien concrets. Vous parlez de listes d'attente. Les listes d'attente en chirurgie, c'est quelque chose, mais il y a aussi des listes d'attente sur les examens diagnostiques qui mènent à la chirurgie, si bien que les listes d'attente se cachent mutuellement les unes les autres, et il est fréquent que ça dépasse un an pour quelque chose de simple, mais de souffrant pour le patient.
Absolument.
Comment vous allez faire pour réduire ça?
Je vous dirais que la première chose pour les listes d'attente chirurgicales, il y a un travail absolument exceptionnel qui a été fait par nos chirurgiens, nos anesthésistes, nos infirmiers, infirmières au bloc opératoire. Actuellement, là, il nous reste 3 patients en attente de plus d'un an au niveau de la procédure chirurgicale. Et on est venu même rehausser la barre en disant, il faut qu'on baisse ça en bas de 6 mois. Donc, on s'est même rehaussé la barre nous-mêmes. Le problème que vous avez mentionné tantôt, c'est en amont de la décision d'avoir une chirurgie.
La résonance magnétique, les tacos, tout ça, là.
Exactement.
Ça cache aussi des listes d'attente éternelles.
Ça cache également des trajectoires d'investigation qu'on appelle, donc pour être prêt à être avoir sa chirurgie, ben il y a toute une espèce de processus thérapeutique ou d'investigation qu'il faut faire avant. On a eu des améliorations extraordinaires. Tomodensitométrie, échographie, échocœur, scopie, je vous dirais radiologie simple. Il nous reste encore beaucoup de travail à faire au niveau de l'IRM, de la résonance magnétique, dans lequel on dépasse nos délais, mais la demande est exponentielle. Donc là, il faut faire beaucoup de travail sur la priorité que je vous ai mentionnée tantôt, de faire des examens qui sont pertinents et de toujours passer le bon patient pour ses besoins et faire attention à ce qu'on produit à l'intérieur de ça.
Est-ce que le privé fait partie des solutions? Parce qu'on voit qu'il y a eu un certain nombre d'opérations qui ont été référées au privé, qui arrivent à faire les choses de façon très efficace. C'est des chirurgies d'un jour, là, mais à faire les choses de façon très efficace, à tel point que le public paraît un peu mal.
Bien, je vous dirais que avant d'acquiescer à ce que vous venez de mentionner, vous parlez sûrement des projets qu'il y a eu à Montréal, oui. Là. Mais moi, je vais attendre quand même, avant de me prononcer là-dessus, de voir le rapport, de voir qu'est-ce que le rapport nous dit en termes de production, de coûts unitaires, qu'est-ce qui est compté, qu'est-ce qui n'est pas compté, et ce qu'on appelle dans notre jargon le case mix, ça veut dire quel type de cas ils ont fait, puis dans combien de temps ils les ont fait. Puis moi, je vais vous dire que tant mieux s'ils démontrent une performance qui est meilleure, ça va juste nous apporter, nous, une opportunité de devenir meilleurs. Puis je peux vous garantir que nos chirurgiens, nos anesthésistes, quand ils vont voir ça, c'est des gens fiers de leur production, puis ils vont relever la barre. Mais on va attendre de voir le rapport.
Okay. Parce qu'il va ouvrir un bloc opératoire à Québec privé au cours des prochains jours.
Mais c'est déjà... nous, là, on est déjà des partenaires de cette composante-là. Absolument. Nous, pour réussir à créer plus d'accès au niveau de nos blocs opératoires, il y a un partenariat qu'on a fait avec la clinique MD, là, un bloc opératoire MD, au niveau de la dentisterie. La dentisterie pour les enfants qu'on doit endormir pour arracher des dents ou refaire des dents pour nos gens également avec une déficience intellectuelle ou un trouble de spectre de l'autisme dans lequel ça prend une attention particulière, hein, différente d'approche pour faire ça. On est en partenariat avec eux. Donc, en plus, ils nous ont permis de faire les chirurgies dentaires dans un délai très raisonnable, même très acceptable. Mais en plus, ça a libéré du temps opératoire pour augmenter l'accès. Donc, on va voir ce que le rapport va nous dire. On va prendre ça après ça en délibéré. Mm-hmm. Puis après ça, on va voir comment, nous, on peut utiliser ça. Dans le domaine de la radiologie, vous savez que c'est déjà le cas. On travaille déjà avec des laboratoires d'imagerie médicale privée dans lesquels les médecins de famille, les médecins dans les GMF, les cliniques privées, réfèrent déjà écho, radiologie simple. Ils réfèrent déjà ça dans des laboratoires d'imagerie médicale privée avec lesquels on est des excellents partenaires.
Vous parliez de la demande pour expliquer une partie des listes d'attente. Il y a la question de la main-d'œuvre aussi qui est importante pour vous. Je voyais que dans les derniers mois, vous êtes allé puiser dans le bassin de travailleurs expérimentés, 55 ans et plus. Est-ce que vous êtes confiant de pouvoir contrôler cette pénurie-là?
Ben, écoutez, la pénurie, c'est extrêmement complexe qu'on vit actuellement. Il y a une chose, c'est les stratégies de recrutement. Puis on a une équipe absolument extraordinaire. Cette année, on a conclu aux alentours de 1600 nouveaux recrutements pour le CHU de Québec Université Laval dans toutes les catégories. Et faut pas se cacher, nos recrutements sont au niveau aussi international. On a une mission au Brésil là, qui est en train ou qui va se faire bientôt. On a une mission en France dans laquelle on va continuer à les recruter. Mais il faut devenir très attractif pour réussir à faire du recrutement. Donc, on est encore à quelques égards très attractif comme CHU de Québec. Faut pas oublier que c'est quand même le plus gros centre hospitalier universitaire de la province de Québec, le plus grand centre de recherche francophone en Amérique du Nord. Donc, tu sais, ceux qui veulent avoir des pratiques de pointe puis ils veulent travailler dans le domaine de la santé physique ultra spécialisée, ben nos portes sont ouvertes sans aucun doute. L'autre élément, par contre, au niveau des enjeux, c'est le volet de la rétention. Mmh. Il faut travailler. C'est très, très dur de recruter et je pense qu'on doit devenir de meilleurs employeurs. Mmh. Moi, je pense qu'on a du travail à faire pour ajuster nos façons de
faire.
Votre
personnel de bloc opératoire, il doit être tenté en maudit de s'en aller au bloc opératoire privé qui lui offre une garantie de travailler de 8 heures le matin à 6 heures le soir puis d'être rentré à la maison.
Ben, c'est tantôt quand vous regardiez la comparaison, faut pas oublier que nos blocs opératoires fonctionnent 24 heures sur 24, 365 jours par année. Mais oubliez pas que ces gens-là sont extrêmement fiers également d'offrir ces services d'urgence-là, de travailler dans le plus gros CHU de la province de Québec avec des cas qui sont extrêmement complexes. Ils en dégagent également une très grande fierté. Donc, mon travail, moi, c'est de travailler avec tous nos gestionnaires pour retenir ces gens-là à l'intérieur du CHU de Québec et leur offrir, comme je disais tantôt, avec la priorité numéro un, un meilleur équilibre vie personnelle, vie professionnelle. Donc, et ça, c'est un défi important pour nous.
Prendre soin des patients et des gens qui vont les visiter, c'est aussi important. Et à Québec, on pratique des tarifs de stationnement qui sont délirants. En fait, tout ce que le ministère permet de pire, le CHU de Québec a choisi de l'infliger à ses patients et à ses visiteurs en matière de stationnement. Quand j'ai vu que vous arriviez de Trois-Rivières, j'étais voir les tarifs de stationnement à Trois-Rivières. J'ai dit, yes, lui, il va nous baisser ça. Quand est-ce que vous nous baissez ça?
Mais regardez, même quand vous allez, c'est une très bonne question, quand vous allez en Mauricie, centre du Québec, vous allez voir si vous allez à La Tuc, le stationnement est à 2 $. Mm. Si vous allez à Masquinongé, gens que je salue d'ailleurs, puis qui vivent des périodes difficiles actuellement au niveau des inondations, le salaire, le stationnement est à 3 $. Mm. Quand vous allez à Trois-Rivières, Victo, Drummond, Shawinigan, aux alentours de 7 $. Comment ça, ça a été établi comme coût? C'est parce que les stationnements municipaux, les stationnements privés sont à 6 et à 7 $. À un moment donné, nous, ce qu'il faut faire, c'est de gérer d'un point de vue économique pour s'assurer que nos patients vont toujours avoir accès. Le problème qui peut arriver, si, admettons, Ville de Québec est à 12, puis après ça, l'autre est à 14, puis moi, je tombe à 6, qu'est-ce que vous pensez qui va se passer?
Mais vous, dans votre cas, notamment au CHUL, vous avez un stationnement gratuit en face. C'est le Place Laurier.
Oui.
Donc, avec votre logique, au CHUL, je devrais être gratuite.
Ben, écoutez,
votre concurrent, il est gratos.
Ben, écoutez, nous, ce qu'on va faire, vous savez que le gouvernement va sortir une politique là-dessus, là, bientôt. Et nous, sans aucun doute, ce qu'on a essayé de faire pour tous les hôpitaux du CHU de Québec, on a essayé de se marier au niveau économique.
Non, non, ils ont fait pire que ça, M. Beaumont. Là, vous regarderez vos chiffres. Là. Le maximum que ce que le gouvernement permet comme première heure, c'est là que vous êtes. Le maximum de ce qui est permis dans une journée, c'est là que vous êtes. En fait, là, le CHU de Québec a pratiqué les pires tarifs de stationnement qu'il avait le droit de pratiquer.
Vous me permettrez d'être en désaccord avec vous parce que même si vous allez à Montréal, c'est quoi le tarif de stationnement à Montréal? On est à 32 $ par jour.
C'est pour ça qu'on reste à Québec, on ne veut rien savoir d'eux autres.
Chez nous, on est à 12 ou on est à 16. Mais je peux vous garantir une chose, que si on est en mesure, puis nous, là, on n'est pas là pour gérer une business de stationnement. On est là pour s'assurer que nos stationnements sont bien entretenus, sont accessibles et on a un coût comparable pour l'ensemble de la population. Et croyez-moi, moi, j'ai des parents là, qui utilisent le réseau de la santé. J'ai une grand-mère qui utilise à tous les jours le réseau de la santé. Et si je peux diminuer les coûts de stationnement, soyez-en convaincus, je vais le faire.
Mais on va parle dans un
absolument.
An.
Et je vais regarder ce que va sortir la politique du nouveau gouvernement. Et vous pouvez vous
Et
assurer.
Vous savez, on n'est pas toujours obligé de faire le pire que ce que le gouvernement promet.
Non.
Permet. On peut aussi faire le moins que ce que le gouvernement permet.
Puis on va regarder pour se maintenir dans un équilibre raisonnable et de s'assurer encore une fois de se rappeler pour qui on travaille.
Monsieur Beaumont. À Montréal, au Jewish Hospital, ils ont accéléré leur triage et le traitement à l'urgence en mettant un médecin au triage. Est-ce que vous êtes tenté de faire la même chose? On est bien intrigués de voir que, alors que ça a marché chez eux, il n'y a pas beaucoup d'hôpitaux dans la province qui ont copié la recette.
OK. C'est une très bonne question. Mais vous savez, tantôt, quand je vous parlais de pertinence, moi, je crois beaucoup à la compétence extraordinaire que nos infirmières ont, puis nos IPS, puis nos IPSPL. Puis moi, je peux vous garantir que nos infirmières ont des compétences absolument extraordinaires pour faire du triage de très grande qualité.
J'en doute pas, ils n'ont juste pas le droit d'ordonner, par exemple, que je passe une radiographie avant de voir le médecin.
Mais
vous
voyez
le médecin pour avoir une radiographie.
Encore là, Mme Régal, vous savez, c'est une mauvaise perception. Parce qu'actuellement, dans 4 de nos hôpitaux, à l'exception de l'enfant Jésus, pour certaines raisons, de traumatologie tertiaire, tous nos infirmières au triage peuvent déjà demander des examens de radiologie, peuvent déjà demander des examens de laboratoire et initier des traitements. Et ça, là, on le fait déjà très bien. Mais il faut se poser la question, est-ce que un médecin urgentologue, MU3 ou MU5, un spécialiste, est la meilleure personne pour faire un triage?
Ben, moi, ça a marché à une place.
Ben, écoutez, ça a marché.
Ce qui est drôle, c'est que personne imite la place où ça a marché.
Ben, moi, je ne suis pas sûr que c'est de maximiser l'utilisation du meilleur professionnel à la bonne endroit. Faudrait voir où est-ce que le Jewish est rendu dans ses réflexions. Mais c'est pas l'orientation que prend actuellement le CHU de Québec, Université Laval. Il veut maximiser le rôle de son personnel infirmier. Et en tout cas, moi, j'en profite parce qu'ils font un travail absolument exceptionnel. Puis j'en profite pour les remercier. Puis on va continuer à développer dans leur talent pour leur permettre d'encore mieux faire le triage.
Autre problème récurrent à Québec, le manque d'ambulances. Mais on s'aperçoit que chaque fois qu'on en rajoute, ça ne règle pas le problème. Ça ne règle pas le problème parce que les civières qui arrivent dans vos urgences sont réquisitionnées pour garder des patients dedans. Donc, l'ambulancier ne peut pas repartir avec sa civière. Il est comme pris en otage à l'urgence avec sa civière. Le résultat, c'est qu'on manque d'ambulances pour sauver du vrai monde sur le terrain. Est-ce que vous allez faire quelque chose pour qu'on arrête de prendre en otage les ambulanciers et leurs civières?
C'est effectivement une problématique que j'ai pris connaissance quand je suis arrivé, je suis de Québec, Université Laval, et quand j'étais en Mauricie, Centre du Québec, j'étais responsable de tout le service préhospitalier, et c'était effectivement une problématique aussi importante. Et je peux vous dire que, tu sais, je jouerai pas à l'autruche, là. Moi, j'ai du travail à faire avec mes équipes dans nos urgences, avec notre directeur dans nos urgences. On a déjà été sensibilisé par mon collègue, M. Delamarre, et il y a une prise de conscience de notre point de vue à nous, comme CHU, là, de quelque chose qu'on peut faire de beaucoup mieux. Donc, je pense que les ambulanciers ont aussi un travail à faire, mais le CHU de Québec a un travail à faire également pour accélérer son triage pour les patients sur civière et créer de la vélocité dans le processus. Donc, je m'estimerai pas avec vous là-dessus, okay. Mais on a vraiment du travail à faire pour s'améliorer. Et d'ailleurs, on a un plan de travail là-dessus. Moi, je travaille ça en collaboration avec mon collègue, puis on pourra s'en reparler, puis je suis convaincu qu'on va faire la différence dans les prochains mois.
Je résume donc, on va avoir une totale transparence en matière de liste d'attente.
Absolument.
Vous allez regarder le stationnement sérieusement parce que, notamment en face de Place Laurier, vos tarifs se justifient pas d'aucune manière par le voisinage. Et troisièmement, on va essayer d'arrêter de prendre en otage les ambulanciers.
Absolument.
Merci beaucoup, M. Beaumont. Si on fait juste ça, on aura déjà gagné un peu. Merci
beaucoup.
C'est bon,
ça marche. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
On revient